Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation dans ces cours de la licence Humanité numérique. Alors, ce cours, on va le faire, si vous voulez bien, en trois parties, avec une pause au milieu entre la partie 2 et la partie 3. Dans la première partie, je vais me consacrer à une définition de la réalité virtuelle. On dit beaucoup de choses sur la réalité virtuelle, beaucoup trop de choses, et on dit du coup un petit peu n'importe quoi. Donc on va préciser ce qu'est la réalité virtuelle, et dans une deuxième partie, on verra en quoi la réalité virtuelle peut aider à la valorisation ou à la recherche sur le patrimoine. Et puis pour pas rester trop abstrait, eh bien on consacrera une troisième partie à une démonstration concrète. Et là, c'est Sophie Madeleine qui interviendra. Elle vous montrera comment on peut se transporter à Rome au IVe siècle grâce à la réalité virtuelle, visiter Rome, donc vous montrer Rome, la Rome de l'époque, la Rome de Constantin, mais aussi comment la réalité virtuelle peut être utilisée par la recherche, puisque nous sommes en milieu académique, pour travailler sur certains aspects de l'urbanisme, de l'architecture, des techniques de la Rome antique. On fera une pause, si vous voulez, à la fin de la partie numéro 2. Donc, dans la partie numéro 1, je vais à la fois définir ce qu'est la réalité virtuelle, parler des interfaces de la réalité virtuelle, c'est-à-dire comment on communique avec un modèle en réalité virtuelle. On fera aussi une distinction entre deux notions qui sont très à la mode, avec des termes qui sont très employés, pas toujours dans le bon sens, qui sont réalité virtuelle, réalité augmentée. On verra la différence entre les deux. Et puis ensuite, on verra à la fois la spécificité de l'application de la réalité virtuelle au patrimoine, soit pour représenter un monde réel. La réalité virtuelle est utilisée pas seulement pour des mondes qui n'existent pas, mais vous verrez quel peut être l'intérêt de représenter en réalité virtuelle un monde réel. Également, bien sûr, nous, c'est notre spécialité aussi rêve, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle, représenter un monde disparu ou très endommagé. Puis on verra aussi, c'est peut-être moins attendu dans le domaine du patrimoine, que la réalité virtuelle peut être utilisée aussi pour présenter ou pour étudier un monde imaginaire. Alors, je commence par la définition de la réalité virtuelle pour être simple. Pour être simple, cette définition tient en quelques mots. La réalité virtuelle, c'est interagir. Interagir, le mot est important, avec un monde numérique en trois dimensions. Pour qu'il y ait réalité virtuelle, il faut qu'il y ait interaction. Interaction, c'est-à-dire pouvoir se déplacer librement, ou pouvoir bouger des objets, les prendre, les regarder. S'il n'y a pas interaction, il n'y a pas réalité virtuelle. Le monde numérique, eh bien, peut être un monde existant. Nous avons, par exemple, restitué le musée mémorial de Caen, exactement comme il existe, pour des applications qui ne sont pas patrimoniales, en l'occurrence, mais qui sont des applications médicales, puisque c'est une de nos spécificités aussi rêves d'utiliser la réalité virtuelle pour des applications dans le domaine santé. Le monde numérique peut être un monde qui n'existe plus du tout. Je ne sais pas, par exemple, si vous savez que l'ancienne université était entre la rue Pasteur et la librairie Le Brouillon de Culture. Elle a totalement disparu. Là où est aujourd'hui le cabinet mobilier, un cabinet mobilier dont je ne me souviens plus du nom, il n'y en a plus aucune trace. Ça peut être la restitution d'un monde endommagé. Vous verrez l'exemple sur la Rome antique. Ça peut être aussi, ce monde numérique peut être totalement imaginaire. C'est le cas de ce que l'on fait au CIREV pour des environnements médicaux qui vont servir pour des expérimentations. Donc c'est ça la réalité virtuelle, c'est interagir avec un monde numérique. Alors comment le voit-on ce monde en réalité virtuelle? Là aussi, il y a beaucoup d'idées fausses. La réalité virtuelle, la visualisation en réalité virtuelle n'est liée ni à l'usage d'un casque immersif. Souvent, quand on voit un reportage à la télévision, en réalité virtuelle, tout le monde a un casque immersif. Non, il n'y a pas besoin de casque immersif et il n'y a pas besoin non plus de vision en stéréoscopie. Alors, la vision en stéréoscopie, c'est la vision en profondeur. Quand vous êtes en vision naturelle, vous avez vos deux yeux qui ne voient pas exactement la même chose. Ça vous donne un effet, vous voyez la profondeur. Donc l'idée, au lieu d'avoir un écran comme là tout de suite, là vous voyez sur l'écran en monoscopie, l'idée c'est avec des lunettes spéciales de rendre un effet de profondeur. C'est un plus, mais ce n'est pas nécessairement lié à la réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, vous pouvez la regarder avec un simple écran d'ordinateur. Ça suffit. Tous ceux qui pratiquent le jeu vidéo n'ont pas de lunettes, enfin, peuvent le faire sans lunettes. Le jeu vidéo, c'est l'application la plus répandue de la réalité virtuelle. On peut aussi utiliser, on en verra une démonstration tout à l'heure, un simple écran de tablette ou de téléphone. On peut utiliser, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, un écran, un grand écran de salle de projection, soit en monoscopie comme on le fait aujourd'hui, soit en stéréoscopie comme on le fait dans d'autres amphis de l'université, ici à l'amphichimie. On peut utiliser un casque immersif, en effet. Voici une expérimentation qui a été faite au CIREV pour visiter le mémorial. Donc la personne, ce que voit la personne dans ses lunettes, c'est ce que vous voyez sur l'écran de gauche ici. Donc la personne, eh bien, peut regarder cet objet qui est dans le hall du mémorial, la Jeep, la regarder de tous les côtés. Alors il se bouge de manière qui paraît totalement absurde pour nous, mais ce qu'il voit dans ses lunettes, c'est la Jeep qui est devant lui, et il va se baisser, il va regarder à l'intérieur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour lui, ce qu'il voit, comme il ne voit que ça, c'est la Jeep qui apparaît dans ses lunettes, comme s'il la voyait réellement. Et quand il se penche, c'est comme s'il se penchait sous la Jeep réelle. Et il peut regarder l'intérieur, se recoiffer dans le rétroviseur, si besoin, comme si on était vraiment dans la réalité. L'interface de visualisation, alors je vais du plus simple au plus compliqué, surtout au plus coûteux, ça peut être une salle d'immersif comme celle qui est à 10 mètres de vous. 10 mètres de vous, mais on n'est plus dans les mêmes prix ni dans les mêmes utilisations. Lors d'écran d'ordinateur, c'est un écran ordinaire. La salle immersive qui est à côté de vous, elle a coûté à construire 3 millions d'euros. On n'est plus, et c'est une des plus grandes salles, c'est la plus grande salle immersive de France en milieu universitaire. Donc ici, dans une salle immersive comme celle-là, vous êtes, alors cette fois, vraiment immergé dans la réalité virtuelle, c'est-à-dire que le sol est un écran, les murs sont des écrans. Vous êtes complètement transporté dans un monde virtuel. Donc voilà pour visualiser du plus simple au plus compliqué, au plus coûteux. Maintenant, comment on interagit avec la réalité virtuelle ? Ça peut être très simple aussi. Vous pouvez interagir en réalité virtuelle avec un clavier d'ordinateur et une souris, tout simplement. Vous pouvez intervenir également, vous pouvez interagir avec une manette de jeu vidéo. C'est ce que l'on fera tout à l'heure quand on vous fera visiter Rome. Ça peut être aussi avec des joysticks virtuels. Voilà un exemple d'application patrimoniale que nous avons réalisé en partenariat avec Cadomus, l'association Cadomus pour la reconstitution de Caen avant la Seconde Guerre mondiale, et avec le mobilier Decaux. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'ancienne mairie se trouvait, l'ancienne mairie de Caen se trouvait place de la République. Là, aujourd'hui, il y a un parking devant la préfecture. Il y a juste les traces de l'ancienne mairie. Elle était complètement détruite pendant la guerre. L'ancienne mairie était là. Donc on l'a restituée. Voilà la place de la République actuelle, là où il y a le manège actuellement, où les promenades et les jets d'eau. Et la mairie était au niveau du parking, devant le conseil général, devant la préfecture. On a reconstitué tout cela tel que c'était juste avant les bombardements, et on a fait le test d'installer une borne interactive pour le public. Alors, pas question là, d'installer un joystick, pas un vrai joystick, pas question d'installer un clavier, ni une manette de jeu vidéo. Donc, le public peut se déplacer avec des joysticks virtuels, un joystick qui va permettre d'avancer, de reculer, de se déplacer, de gauche, droite, devant, derrière, et un joystick qui va permettre d'orienter le regard. On est vraiment en réalité virtuelle parce que vous êtes dans un monde numérique, un monde qui n'existe plus, et vous interagissez totalement librement avec. Là, la personne va où elle veut, elle visite ce qu'elle veut dans cette ancienne mairie, dans Place de la République. Avec en plus, puisque c'est quelque chose qui a été réalisé en milieu universitaire, bien sûr, toute la possibilité d'avoir l'information scientifique, l'information historique sur ce qu'était cette ancienne mairie. Vous pouvez également interagir avec ce qu'on appelle un fly stick. Alors là, on ne le voit pas très bien parce que la personne nous tourne le dos, mais dans la main, elle a l'équivalent d'une manette un peu comme celle-là, hein, si ce n'est que c'est une manette qui va travailler avec le monde en trois dimensions. Et ce que vous voyez pour vous, parce qu'elle est en stéréoscopie, la double flèche, la double bande rouge, c'est en fait un rayon laser qui est unique dans les lunettes de la personne. Ça lui permet de pointer l'endroit où elle veut se diriger. Et ensuite, elle a sur la manette un joystick qui lui permet d'avancer, de reculer, de se déplacer. Ça, c'est filmé dans la pièce qui est à côté de vous, là, dans la salle immersive ici. Et puis, on peut également, en réalité virtuelle, se déplacer naturellement. La personne ici a des lunettes qui lui permettent de voir en stéréoscopie. Elle a également sur ses lunettes des petites boules fluorescentes qui sont captées par des caméras infrarouges situé tout autour de la salle, ce qui fait que l'ordinateur sait en permanence vers où la personne regarde, à quelle hauteur elle regarde, et dans son visage, dans ses lunettes à elle, la personne voit les objets comme si elle était dans un monde réel. Elle se déplace tout simplement dans un espace qui n'est pas très grand, enfin, je vous dis, c'est quand même le plus grand de France actuellement en milieu universitaire, elle se déplace dans un milieu qui fait 50 mètres carrés. On peut également se déplacer avec un tapis de marche. Actuellement, l'Université de Caen est la seule à posséder ce type de tapis de marche relié à une salle immersive de cette taille-là. Alors, un tapis de marche, qu'est-ce que c'est ? C'est un tapis comme vous connaissez pour l'entraînement sportif au départ, sauf que celui-ci est relié aux machines de calcul. Et qu'en même temps que l'on marche, l'environnement change complètement. C'est-à-dire que vous pouvez marcher dans les rues de Rome. Enfin, dans n'importe quelle rue, je prends Rome comme ça au hasard. Mais ça peut être n'importe quelle rue, et à mesure où vous marchez, vous n'avez pas l'impression que c'est vous qui marchez. Enfin, vous n'avez pas l'impression que vous restez sur place. Vous avez l'impression de vous déplacer dans un environnement. Il suffit de changer le regard de côté pour changer de direction. Et le tapis, il est perfectionné parce qu'il est en fait utilisé non pas pour une application patrimoniale, mais pour une application médicale qui concerne les problèmes d'équilibre des personnes âgées. Et il est monté sur vérin. C'est-à-dire que si vous descendez un trottoir, le tapis descend le trottoir. Si vous montez, le tapis monte. Si vous descendez, le tapis descend, etc. Voilà, donc les différents moyens d'interaction. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la réalité augmentée ? La réalité augmentée, j'allais vous dire, que c'est un concept vieux comme le monde, presque. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on l'utilise. La réalité augmentée, si on veut la définir, c'est le processus qui permet de superposer une image virtuelle à la réalité. Mais image virtuelle, ce n'est pas nécessairement une image informatique. Une image virtuelle, c'est une image qui n'est pas réelle. Vous savez, on a un problème avec le mot virtuel. En français, quand on utilise l'expression « réalité virtuelle », c'est parce qu'en fait, on a calqué une expression anglaise qui est beaucoup plus facile à comprendre, « virtual reality », qui veut dire « la presque réalité », la quasi-réalité. Donc ça, c'est simple à comprendre. Nous, dès qu'on emploie le mot « virtuel », ça devient un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est ça le virtuel, c'est ce qui n'est pas tout à fait réel. Eh bien, on avait des procédés de réalité augmentée qui sont très vieux. Ici, j'ai pris l'exemple d'un livre de 1962, qui est un petit guide de Rome, mais il y en a des plus anciens, hein, qui consiste sur une page à avoir une photo de la ruine dans son état actuel. Ici, c'est l'état du Colisée en 1962. Et juste sur la page d'avant, vous avez un calque avec le monument reconstitué. Donc, vous regardez la photo, vous mettez le calque dessus, et vous avez le monument restitué dans son état, ici l'état du IVe siècle, avec la statue de Néron devant qui manque aujourd'hui. C'est un procédé qui est encore utilisé dans certains musées, à Bavay dans le Nord, ou bien ici à Carnuntum en Autriche. On installe une plaque de plexiglas à un point de vue donné, et on dessine sur le plexiglas, le monument dans son état d'autrefois, dans son état restitué. Et quand on se place, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un arc quadrifons, c'est-à-dire un arc romain à quatre entrées. Quand vous voyez ce qui reste aujourd'hui, ce n'est pas facile à comprendre ce que pouvait être ce monument dans l'Antiquité. Eh bien, si vous vous placez juste derrière le plexiglas, à l'endroit donné, voilà ce que vous voyez. Vous voyez à la fois la ruine dans son état actuel, donc la réalité, et en ligne, simplement, la reconstitution, la restitution du bâtiment autrefois. Ça, c'est de la réalité augmentée. Alors bien sûr, les moyens informatiques, les moyens numériques ont permis d'aller beaucoup plus loin. Une belle expérience de réalité augmentée, c'est l'expérience de Cluny, vous savez que Cluny, c'est une des grandes abbayes, une des plus grandes abbayes françaises, qui a été en partie démantelée après la Révolution française. Les ruines qui restent sont très belles, mais très partielles. Et si vous voulez avoir une idée de ce qu'étaient les ruines à l'époque d'avant la Révolution, eh bien, des écrans de télévision ont été placés en extérieur. Ce sont des écrans mobiles. Vous les déplacez vers l'endroit que vous voulez regarder. Et ce que vous voyez, ce n'est pas l'état actuel de l'abbaye, c'est son état d'avant la Révolution. On peut combiner aussi, si on le souhaite, réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est ce que nous avons fait avec l'application qu'on appelle Roma in Tabula, qui vous permet, vous pouvez le faire de ce soir si vous avez un téléphone ou une tablette Android, qui permet de télécharger sur un téléphone ou une tablette Android une application. Lorsque vous avez en même temps, donc, il y a la possibilité de télécharger des plans des monuments anciens. Et je vais la reprendre au début. Lorsque vous filmez le plan du monument sur la petite fiche qui est fournie avec l'application, que vous pouvez imprimer, eh bien, la machine va reconnaître le plan du bâtiment, elle va le reconstituer, et ça va vous permettre, en tournant le plan ou en tournant l'appareil, de voir le monument qui apparaît en trois dimensions. Ça, c'est de la réalité augmentée. Vous filmez quelque chose qui est réel, et vous voyez apparaître quelque chose qui n'existe plus. Et puis, vous pouvez utiliser ensuite la tablette en réalité virtuelle proprement dite, c'est-à-dire sans le besoin de filmer le document réel, avec des joysticks virtuels, comme on l'a vu tout à l'heure sur la borne de Co, pour visiter n'importe quel monument présent dans l'application, avec l'accès aux documentations, comme vous auriez accès à des cartels dans un musée, vous vous déplacez totalement librement dans ce monument, et ça, c'est de la réalité virtuelle. L'application sera bientôt... Vous pouvez aussi utiliser un autre système dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est le système du gyroscope. C'est-à-dire que la tablette a une boussole intégrée et simplement en la déplaçant, elle, comme si vous regardiez vous dans un bâtiment vers le haut, vers les murs ou vers le sol, la simple orientation de votre tablette vous permet de voir ce qu'était le plafond, ce qu'était le sol ou ce qu'étaient les murs. Alors venons-en maintenant au patrimoine. À quoi tout cela va nous servir pour le patrimoine? Alors bien sûr, j'en ai déjà parlé, j'ai pris déjà quelques applications patrimoniales au cours de cette première partie, mais maintenant, on va se consacrer aux applications réalité virtuelle pour le patrimoine. Le patrimoine, au sens propre, c'est ce que l'on a hérité de nos parents. Donc ça peut être matériel, immatériel. On va parler ici du patrimoine qui est celui qui se prête bien à les applications réalité virtuelle, c'est le patrimoine bâti, le patrimoine architectural ou les objets. On va utiliser... Le patrimoine, quand on... Il y a plusieurs manières de s'y intéresser. Hein, plusieurs manières, plusieurs objectifs. On peut s'y intéresser par simple curiosité. On peut s'y intéresser parce que c'est quelque chose auquel vous êtes attaché sentimentalement, un lieu que vous aimez particulièrement, un monument que vous aimez particulièrement, ou on peut s'y intéresser aussi de façon académique. C'est dans ce cadre-là que je me place. Et là, du point de vue académique, vous avez deux manières d'utiliser, de travailler sur le patrimoine. Soit vous allez étudier le patrimoine, donc faire un travail de recherche sur le patrimoine, soit vous allez chercher à l'utiliser pédagogiquement, présenter au public, à vos élèves, à vos étudiants, un objet ou un site patrimonial. La réalité virtuelle va vous permettre de le faire dans les deux cas. Et là, on va retrouver les trois possibilités d'utiliser soit un monde qui existe, soit un monde qui n'existe plus du tout ou qui n'existe que partiellement, soit un monde imaginaire. Je vais prendre les trois successivement. Sachant que, dans tous les cas, il faut commencer par faire une acquisition de données. Il faut commencer par numériser le patrimoine. C'est la première opération. Alors cette opération, elle peut être soit manuelle, soit automatique. Quand on modélise un environnement qui n'existe plus, ça ne peut être que manuel. Pas d'autre solution. On va partir des plans travaillés par les archéologues, on va partir des textes, on va partir des restes archéologiques, on va partir de quelques fois de représentations iconographiques, mais on va faire ça manuellement. Si l'objet, le monument ou le site existe encore, on pourra faire une numérisation, une acquisition automatique, soit par scanner, ça consiste à soit faire tourner un scanner tout autour de l'objet que l'on souhaite numériser, soit à l'inverse, faire tourner l'objet devant le scanner. Ou bien on peut utiliser également la photogrammétrie. C'est le principe de photographier sous différents points de vue un objet ou un site. Les deux méthodes ne sont pas tout à fait équivalentes. La photogrammétrie est moins précise dans les mesures, mais elle est moins chère, beaucoup moins chère à mettre en œuvre que le scanner. Alors, quel est l'intérêt de représenter un lieu réel ? Je ne parle pas des applications médicales dont on a besoin, nous aussi rêves. Je parle ici uniquement des applications patrimoniales. Eh bien, on peut avoir besoin de représenter un lieu réel, par exemple, parce qu'il est fragile et donc interdit à la visite. C'est le cas des grottes de Lascaux. Les grottes de Lascaux, elles sont fermées. On ne peut pas faire autrement, c'est normal. Donc, si on veut visiter les grottes de Lascaux, soit on va aller dans la fausse grotte qui a été faite à côté, soit on va pouvoir utiliser la réalité virtuelle. Le lieu réel peut être dangereux. Dangereux physiquement. Aujourd'hui, par exemple, à Rome, on ne peut plus aller sur la face sud de la colline du Palatin, qui menace à chaque instant de s'effondrer. Donc, si on veut faire des études sur le site, je ne parle pas de chercher à reconstituer, simplement faire des études sur les restes en place, la seule solution, c'est d'en avoir une numérisation et de travailler en réalité virtuelle sur cette partie du Palatin. Le site peut être dangereux à cause de l'homme. Aujourd'hui, si vous voulez visiter Palmyre, en Syrie, il vaut mieux le faire en réalité virtuelle, quand, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution tout de suite, qu'en réalité propre. Mais tout simplement, le site peut être lointain. Le site peut être lointain, difficilement accessible. J'ai pris ici l'exemple de grottes chinoises, les grottes de Mogao, qui sont situées à la limite du désert de Gobi. C'est un lieu extraordinaire, une falaise, dans laquelle des centaines de cavités naturelles ont été soit creusées par l'homme, enfin, pas naturel, ils ont été creusés par l'homme, ont été aménagés par l'homme ou creusés directement par l'homme. Et à l'intérieur, on a une collection de peintures bouddhistes absolument exceptionnelles. Il y a au total 2000 sculptures colorées et 45 000 mètres carrés de fresques. On est à 1500 km de Pékin, au bord du désert de Gobi, et de toute façon, le site est fermé au public. Donc la seule façon d'étudier ces grottes en histoire de l'art, eh bien, c'est de les étudier en réalité virtuelle. Alors, les Chinois ont construit un site, je vous ai donné l'adresse ici, qui indique la possibilité de visiter en réalité virtuelle. Bon, moi, j'ai pas trouvé sur le site de la vraie réalité virtuelle. Ce que j'ai trouvé, c'est des images fixes comme celle-là. Ce sont des vidéos. Si j'ai bien compris, la réalité virtuelle, ils la proposent dans le cadre d'expositions itinérantes. Mais on pourrait imaginez qu'ils la mettent aussi à libre disposition. J'en dirai un mot tout à l'heure sur les difficultés techniques de le faire. Donc voilà quel peut être l'intérêt de restituer un monde qui existe toujours, qui existe encore, qui est bien réel. Enfin, quand je dis restituer, ce n'est pas restituer ici, c'est simplement numériser. Ça peut aussi servir tout simplement pour les archéologues. Les archéologues utilisent beaucoup, utilisent de plus en plus les modèles numériques simplement pour étudier leur relevé, leur ruine, hein, sans avoir à être toujours sur le site. On peut utiliser la réalité virtuelle pour visiter un lieu qui a soit complètement disparu, soit qui est très endommagé et difficile à lire aujourd'hui. Voici quelques exemples d'applications réalisées ici à Caen, au Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle. On a restitué Caen 1936, une partie de Caen 1936, je vous en ai parlé tout à l'heure. On est en train de restituer un site en Irak, le palais de Nimrod, alors qui est doublement intéressant parce que, à la fois, c'est un site qui est très endommagé, hein, c'est en Mésopotamie, c'est un site qui est très endommagé, et c'est un site également qui est inaccessible pour des raisons de guerre actuellement, et en plus, c'est un site qui était, qui l'est moins maintenant, mais qui était menacé par Daesh. Et là, c'est le ministère, c'est une commande du ministère qui nous a demandé de restituer ce site et d'avoir, non seulement de le restituer, mais d'en proposer une visite virtuelle. Et puis, bien sûr, notre domaine de spécialité de départ, c'est l'Antiquité romaine, et c'est visiter la maison de Viola Romaine, le site de Viola Romaine. Alors, quand on aborde la question d'un lieu disparu, ou bien d'un lieu gravement endommagé, c'est le cas de Viola Romaine, par exemple, se pose la question de la restitution. Alors, la question de la restitution, c'est une question qui est embarrassante, parce qu'elle est imbriquée dans la notion de réalité virtuelle, mais elle ne lui est pas liée. On a restitué bien avant d'avoir des techniques informatiques. Par exemple, un des travaux obligés des architectes qui était Grand Prix de Rome et qui allait faire un séjour à la Villa Médicis à Rome à la fin du 19e siècle, au début du 20e, c'était à la fois de faire un relevé de ruines, de proposer sous forme d'aquarelle un relevé de ces ruines au public, mais également de proposer une restitution. C'est une très belle collection. Voici un exemple sur le forum romain. Ça, c'est de la restitution. Avec tous les problèmes scientifiques que ça pose, je ne vais pas m'engager dans le débat tout de suite, mais on a encore beaucoup de collègues archéologues ou historiens en particulier qui sont réticents face à la restitution parce que l'on dit que l'image de droite, c'est une image qui va s'imposer à vous tous ici, j'imagine, Matt, si vous allez la figer dans votre tête, vous allez vous dire le forum. Tiens, ce forum, c'était ça. Bon, ça, c'est une hypothèse. Ce n'est pas forcément ça. Bon. C'est une notion qui est difficile à manier, qui fait débat, mais on ne peut pas faire autrement si on veut représenter un monde disparu. Il faut bien le restituer à un moment donné si on veut le visiter ou le présenter. On a vu l'exemple en aquarelle. La restitution peut se faire aussi sous forme physique, sous forme de maquette. Le début du XXe siècle a été l'époque des grandes maquettes, celle de Paul Bigot, qui est ici à l'Université de Caen, et celle d'Italo Gismondi, qui se trouve au Musée de la Civilisation Romaine, mais qui est malheureusement fermée au public aujourd'hui. Alors, arrivé à ce point, je voudrais bien qu'on fasse la distinction entre restitution virtuelle et réalité virtuelle. Alors, plutôt que d'aller sur Internet, vous avez des dizaines de sites qui vous proposent des visites virtuelles ou des visites en réalité virtuelle qui n'ont rien de réalité virtuelle. Alors, plutôt que de vous montrer des images de ces sites concurrents, je vais vous montrer le nôtre propre, qui, bien que l'on soit un centre de réalité virtuelle, pour l'instant ne propose pas de réalité virtuelle, et on n'a jamais prétendu proposer de réalité virtuelle actuellement sur Internet, parce que, dans l'état actuel des choses, c'est très difficile, très compliqué. Alors, à l'occasion de la fête de la science, le 18 octobre, je crois que c'est la première fois qu'on fait cette annonce, on va tenter la mise en ligne de quelques monuments en réalité virtuelle avec une version de l'application Romain Tabula pour PC, par Internet. Mais pour l'instant, sur un site comme le nôtre, donc je vais tout simplement y aller en direct. Voilà, là je suis sur le site Plan de Rome de l'Université de Caen. Je vais aller dans ce qu'on appelle restitution virtuelle et non pas réalité virtuelle. Et en restitution virtuelle, on va avoir ce qu'on appelle des rendus. Ça, c'est le plus facile. Ce qu'on appelle un rendu, c'est une image fixe. Donc on a pris une photo. On peut en prendre des dizaines dans un modèle virtuel. Et on va proposer, soit sur un site Internet, soit pour un livre, une série de rendus. Alors voici, par exemple, si on veut voir différents rendus, voici la liste de tous les monuments qui sont actuellement disponibles. Si on va voir les thermes de Caracalla, on peut afficher l'écran, l'image en grand, et voir une série de rendus. Ça, ce n'est pas de la réalité virtuelle. Ce sont des images, un diaporama, issu d'un modèle restitué, d'un modèle virtuel, mais ce n'est pas de la réalité virtuelle. On peut également avoir dans la liste on peut avoir des vidéos. Par exemple, si on prend le théâtre de Pompée, on va avoir différentes vidéos disponibles. C'est dans le monde virtuel, on a déplacé une caméra. On a fait un film. On a fait un film, c'est un film virtuel, bien entendu, puisque ce monument à Rome n'existe plus aujourd'hui, mais ce n'est qu'une vidéo. Ce n'est pas de la réalité virtuelle. Parce que vous ne pouvez pas interagir, vous subissez. Vous regardez par là, vous passez par là où nous, on a bien voulu passer au départ. Encore plus trompeur. On a fait également des 360 degrés. 360 degrés, alors on peut prendre par exemple le forum de Trajan. Donc là, je me trouve au milieu du forum de Trajan. Je vais pouvoir, si je veux, donc ça c'est en libre accès sur Internet, en avoir un point de vue à 360 degrés. Je peux zoomer sur une des parties, par exemple, mais ce n'est pas de la réalité virtuelle. Parce que je suis coincé, là, je suis bloqué, je suis au milieu du forum, je ne peux pas me déplacer ailleurs qu'au milieu du forum. Et pour qu'il y ait réalité virtuelle, il faut que je puisse aller n'importe où. Donc voilà, différentes choses qui sont de la restitution virtuelle, mais qui ne sont pas de la réalité virtuelle. Alors, je n'insiste pas sur l'aspect qui est visiter un monde disparu imaginaire, puisqu'on va consacrer la deuxième partie de cette conférence à une visite effective dans un milieu virtuel, dans la Rome du IVe siècle. Quel est l'intérêt donc de visiter, de construire un monde imaginaire ? Ça peut être. Il peut y avoir différents aspects. Je sais qu'une expérience qui a été tentée sur une des flèches à la cathédrale de Strasbourg. Il y avait un projet d'architecte qui n'a pas été celui qui a été suivi. Ben, représenter la cathédrale de Strasbourg avec la flèche, si on avait suivi le premier projet. Il y a aussi des descriptions qui sont des descriptions purement littéraires. Christine, par exemple, il faudrait peut-être qu'on représente le bouclier d'Achille. Après tout, pourquoi pas? Ça peut avoir un intérêt pédagogique. On sait que le bouclier d'Achille, décrit dans l'Iliade, n'a jamais existé. C'est un bouclier imaginaire, mais qui est décrit tellement précisément qu'on pourrait le restituer, le présenter à un public. C'est un objet patrimonial, c'est un objet patrimonial littéraire, mais on pourrait en faire une représentation virtuelle aussi. Dans certains cas, je vais rester dans le domaine de l'Antiquité grecque, on a des objets qui ont été parfaitement décrits, qu'on est capable de restituer, on a même des schémas. On n'est pas sûr qu'ils aient été réellement construits, réellement faits. Donc on est dans le domaine de l'imaginaire du non-réel, au sens où on ne sait pas s'ils ont existé réellement, mais on est capable de les restituer, ne serait-ce qu'à partir du texte simplement. C'est le cas des automates présentés chez Héron d'Alexandrie, dans les pneumatiques. On a chez quelques autres auteurs de l'Antiquité. Ce sont des robots. Pour certains, ce sont des robots et qui sont parfaitement décrits, qui sont même dessinés, et qui avaient pour objet à la fois de démontrer des principes physiques sur la compressibilité de l'air, sur la non-compressibilité des liquides, sur l'effet de la vapeur, sur le théorème d'Archimède, sur les questions d'équilibre entre les niveaux des liquides, et puis en même temps d'étonner les gens. Eh bien, ces automates, il peut y avoir intérêt à les restituer. En tout cas, on a une thèse en cours actuellement dans le laboratoire sur ce sujet, et au mois d'avril, on vous proposera une nocturne. Une nocturne, c'est des manifestations qu'on fait tous les premiers mercredis de chaque mois, en principe, pour présenter une partie de nos modèles virtuels au public. Ça se fait dans l'amphi Pierre d'Or. Et la nocturne du mois d'avril sera extraite du travail de thèse en cours, où il s'agira de présenter, avec la réalité virtuelle, un automate décrit par Héron d'Alexandrie. Cet automate est extraordinaire. C'est un robot. Une petite servante, donc c'est l'aspect d'une servante, qui vous tend la main. Et si vous posez une tasse dans sa main, eh bien, elle va vous servir du vin mêlé avec de l'eau. Alors, c'est compliqué parce que dans l'Antiquité, on ne boit jamais le vin pur. On boit toujours le vin mélangé avec de l'eau. Donc là, elle va d'abord vous servir du vin, d'abord vous servir de l'eau, je ne sais plus dans quel ordre. Elle va compléter avec l'autre liquide, et puis quand c'est fini, elle arrête, vous n'avez plus qu'à prendre votre tasse. Vous buvez, et puis si quelqu'un d'autre vient, il va pouvoir poser sa tasse. Alors c'est un système que je ne vais pas vous expliquer ici, ce sera dévoilé à la nocturne, mais on va essayer d'utiliser la réalité virtuelle pour à la fois reproduire devant le public l'étonnement que devaient produire ces objets, et en même temps, expliquer comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que vous verrez le doctorant sur la scène de l'amphipierre d'or qui sera revêtu d'une combinaison de motion capture avec des petites boules un petit peu partout. Il aura un casque de réalité virtuelle sur le visage. Donc lui sera dans un monde totalement virtuel, imaginaire, où il verra sa servante, il posera son gobelet qui sera également imaginaire dans la main de la servante. Mais vous, vous verrez sur le grand écran ce que lui voit dans ses lunettes. Et ça permettra à la fois de comprendre, du coup, on expliquera le mécanisme. À un moment donné, on mettra la servante en transparente pour voir les mécanismes de piston, les mécanismes de réservoir qui font que cet automate fonctionne. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Ce que je vous propose tout de suite, avant la pause, c'est un temps de discussion sur ce qui vient d'être dit tout de suite. Et ensuite, une fois la pause, on passera dans une application réelle. Je laisserai la parole à Sophie. Et puis, de nouveau, on dégagera un temps de discussion à la fin de cette deuxième partie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie ? Oui ? Alors, c'est de la demi, vous pensez plutôt à Google Street, oui, hein, alors c'est de la demi-réalité virtuelle, dans la mesure où les rues que vous voyez, ou les monuments que vous voyez, ne sont pas numérisés, elles sont faites des photos. Hein, c'est comme si ici, par exemple, je prends en photo l'amphithéâtre, ça va pas être un modèle en 3D. Il faut que ce soit en 3D pour qu'il y ait de la vraie réalité virtuelle. Le modèle ne va pas être en 3D, ça va être une photo. Donc, je vais me déplacer comme ça. Je vais vous voir tous comme si vous étiez là. Mais si maintenant, je voulais entrer pour aller vous serrer la main, par exemple, je ne peux pas le faire. En réalité virtuelle, vous devriez pouvoir le faire. Pour qu'il y ait réalité, il faut que tout soit numérisé. C'est une des grosses complexités de la réalité virtuelle. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup de laboratoires qui font, en fait, de la réalité virtuelle. Il faut qu'il y ait un modèle économique derrière. Le jeu vidéo a trouvé ce créneau-là, parce que derrière le jeu vidéo, il y a une industrie, il y a énormément d'intérêts financiers derrière. Dans le domaine patrimonial, c'est beaucoup plus compliqué de trouver l'intérêt financier. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Que ce soit très libre, hein, n'hésitez pas. En tout cas, nous, on a conçu à nos exposés de cette manière pour pouvoir dialoguer avec vous sur ces questions de façon très, très libre. Oui ?
Le rôle d'Alexandrie, du coup, ça a réellement existé ?
Alors, le personnage d'Héron d'Alexandrie a existé. Il est daté du 1er siècle après Jésus-Christ. Ses écrits sont bien réels, ils nous sont restés. Les automates qu'il décrit, on sait que certains ont réellement été utilisés. Ça, c'est sûr, il y avait des fabrications d'automates qui étaient présentées dans des temples, dans des maisons particulières, dans des palais princiers. On ne sait pas si tout ce qu'il nous présente a été vraiment réalisé, hein, ou si c'est simplement théorique. Dans les descriptions littéraires, on a toujours un petit peu cette problématique. On a un écrit anonyme d'Erebus Bellicis qui date du 4e siècle après Jésus-Christ, qui présente à l'empereur différentes innovations technologiques pour l'armée, hein, différentes machines. Et par exemple, c'est la première fois qu'est attesté dans l'histoire un navire écrou à aube. On est au IVe siècle après Jésus-Christ. Hein, les premiers navires à aube, c'est le XVIIe et XVIIIe siècle surtout. La question, c'est... Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de moteur à explosion, ni de vapeur. Donc ce sont des roues à aube qui sont mues par des manèges de bœufs. Hein, trois manèges de bœufs, des bœufs qui tournent en rond et qui, par un système d'encrenage, actionnent les roues à aube. Alors, beaucoup de gens ont dit « il est fou ce type, enfin, ça n'a jamais existé ». Alors on n'en sait rien, on n'a aucune attestation, on ne sait pas si ça existait ou si ça n'a pas existé. Mais la réalité virtuelle nous a permis de restituer ce navire avec ses roues à aube, de le faire fonctionner virtuellement et de montrer qu'il a pu exister. Il a pu fonctionner. Oui.
Par rapport à ce que vous venez de dire, jusqu'où on peut être sûr qu'une machine qui marche virtuellement marcherait dans la réalité ?
Ah, ça c'est très bien, ça c'est une... Voilà, ça c'est très important. Alors, on peut faire n'importe quoi. Ce qu'on peut faire, une machine qui va parfaitement fonctionner virtuellement et qui ne fonctionnera pas dans la réalité. Parce que pour qu'elle fonctionne dans la réalité, il faut utiliser toute une série de paramètres qui ne sont pas toujours utilisés dans la réalité virtuelle et qui sont très compliqués. Ce sont les propriétés mécaniques à la fois des matériaux utilisés, les questions de force, de retour de force. Alors tout ça, on est capable de le faire, mais c'est énormément, ça a un coût énorme en manière de temps y passer. Ce ne sont plus les mêmes logiciels, ce n'est plus la même modélisation. Si vous voulez vraiment tester une machine, et ça se fait actuellement, hein, ça se fait dans l'industrie en particulier, hein, les pièces d'avion ou les pièces de fusée sont testées en réalité virtuelle avant d'être faites, mais alors là, c'est plus du tout les mêmes coûts, hein, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus cher à faire. Parce qu'il faut entrer tous ces paramètres-là et il faut modéliser en pensant à ça en premier lieu. Nous, on est capable de simuler, si vous voulez, par exemple, une porte. On peut l'ouvrir en réalité virtuelle. Vous allez la prendre avec un gant tactile, par exemple, et puis simplement faire le mouvement d'ouverture. Mais si on veut... que ça puisse correspondre au poids, par exemple, qu'elle soit dure à ouvrir si elle est lourde, eh bien là, c'est plus du tout la même chose. Hein, autant ça va être simple de l'ouvrir tout simplement comme ça, si on n'a pas tenu compte de la réalité, si on veut tenir compte des paramètres physiques, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais c'est faisable. Ça, on est capable de le faire, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu votre question.
Les professions qui rentrent en jeu.
Ah. Oui. Donc les métiers qui entrent en jeu, va d'abord y avoir, dans le domaine du patrimoine, il faut d'abord qu'il y ait les archéologues. Ou les scientifiques en général, hein, les historiens. Historiens, archéologues ou spécialistes de l'objet lui-même étudié. Si on veut restituer, il faut commencer par ça, il faut commencer par un dossier scientifique sur l'objet. Donc actuellement, ce sont soit les archéologues, soit des historiens, soit des conservateurs du patrimoine qui font le dossier scientifique. Ensuite, le deuxième métier qui va intervenir, c'est un métier d'infographiste. C'est-à-dire quelqu'un qui sait dessiner en trois dimensions sur ordinateur. Le troisième métier, ça va être, et ça c'est propre à la réalité virtuelle, au niveau de l'infographie, on peut déjà produire des rendus, comme je vous ai montré, on peut faire des visites, des films. Hein, tout ça, l'infographiste sait le faire. Le troisième métier qui va intervenir pour la réalité virtuelle, c'est l'informaticien. C'est-à-dire celui qui va savoir programmer une application pour qu'on puisse interagir avec le modèle. Et c'est tout à fait différent. Entre faire un film ou simplement montrer des images, on a là deux métiers qui sont très différents. Donc vous avez l'infographiste, ensuite l'informaticien, Et puis ensuite, les derniers métiers qui entrent en jeu, ce sont les métiers, ils ne sont pas toujours obligatoires, mais les métiers de médiateurs. On se rend compte, on va parcourir les différentes applications réalité virtuelle dans le monde, qu'un modèle en réalité virtuelle fonctionne bien s'il est présenté par un médiateur scientifique. C'est-à-dire que lorsque le public est tout seul devant un modèle qui est complexe, où il ne sait pas forcément où aller, comment naviguer à l'intérieur, ça perd beaucoup, beaucoup de son intérêt. Mais les trois premiers métiers obligatoires, pour répondre à votre question, sont ceux-là. C'est le scientifique, l'infographiste, l'informaticien. Oui ? Oui. Alors, oui, c'est toujours possible. Hein. Vous avez des outils de modélisation qui sont relativement simples aujourd'hui, pour aller jusqu'au niveau restitution virtuelle. Hein, ça, c'est pas... Aujourd'hui, il y a des outils comme SketchUp, par exemple, qui sont apportés de chacun, qui ne vous fourniront pas, par contre, un modèle capable d'aller... qui sera efficace en réalité virtuelle. Parce que vous avez, on parlait des métiers, mais on parlait des logiciels. Vous avez le logiciel pour modéliser, donc pour faire l'objet, le monde numérique, et ensuite vous avez le logiciel pour naviguer à l'intérieur, en réalité virtuelle. Et il faut, si vous faites un objet, si vous numérisez un objet pour pouvoir ensuite utiliser en réalité virtuelle, il faut que vous l'ayez pensé au départ. Il faut que les modèles en réalité virtuelle soient conçus pour la réalité virtuelle. Donc oui, a priori c'est possible. Peut-être que d'ici des années, on y arrivera. Pour l'instant, quand je vois au quotidien le travail à la fois de l'infographiste et des infographistes et de l'informaticien qui est chez nous, je me dis qu'il y a encore beaucoup de temps. C'est comme... vous pouvez, après tout, on est aujourd'hui capable de construire, si on est bien bricoleur, on pourrait reconstruire une voiture. Mais est-ce que ça vaut le temps de s'investir dans toutes les compétences mécaniques pour faire le moteur, ou est-ce que c'est pas plus intéressant d'utiliser le moteur tout fait, La comparaison est un petit peu de cet ordre-là. C'est vraiment faire un modèle pour qu'il aboutisse à un modèle interactif, c'est très complexe. Bien, mais écoutez, si vous voulez, je vous propose, si M. Villochon sont d'accord, 5 minutes de pause, et puis ensuite on reprend sur la deuxième partie.